Je jouais à mentir à ma sœur. Tout était bon pourvu que ce fût inventé. J'ai un âne, lui déclarai-je. Pourquoi un âne? La seconde d'avant, je ne savais pas ce que j'allais dire. Un vrai âne, poursuivis-je au hasard, avec un grand courage face à l'inconnu. Qu'est-ce que tu racontes? Finit par dire Juliette. Oui, j'ai un âne. Il vit dans une prairie. Je le vois quand je vais au petit lac vert. Il n'y a pas de prairie. C'est une prairie secrète. Il est comment, ton âne? Gris, avec de longues oreilles. Il s'appelle Canicou, inventai-je. Comment sais-tu qu'il s'appelle comme ça? C'est moi qui lui ai donné ce nom. Tu n'as pas le droit, il n'est pas à toi. Si, il est à moi. Comment sais-tu qu'il est à toi et pas à quelqu'un d'autre? Il me l'a dit. Ma sœur s'esclaffa. Menteuse! Les ânes, ça parle pas. Zut, j'avais oublié ce détail. Je m'obstinais néanmoins. C'est un âne magique qui parle. Je te crois pas. Tant pis pour toi, conclus-je avec hauteur. Je me répétais intérieurement. La prochaine fois, je dois me rappeler que les animaux, ça ne parle pas. Je me lançai à nouveau. J'ai un cancrelat. Pour des raisons qui m'échappèrent, ce mensonge-là ne produit aucun effet. J'essayais une vérité pour voir. Je sais lire. C'est ça. C'est vrai? Ben oui, mais oui. Bon, la vérité, ça marchait pas non plus. Sans me désespérer, je poursuivis ma quête de crédibilité. J'ai 3 ans. Pourquoi tu mens tout le temps? Je mens pas. J'ai 3 ans. Dans 10 jours. Oui, j'ai presque 3 ans. Presque, c'est pas 3 ans. Tu vois, tu mens tout le temps. Il fallait que je me fasse à cette idée. Je n'étais pas crédible. Ce n'était pas grave. Au fond, ça m'était égal qu'on me croie ou non. Je continuerai à inventer pour mon plaisir. Je me mis donc à me raconter des histoires. Moi, au moins, je croyais à ce que je me disais. Personne dans la cuisine. Une occasion à ne pas manquer. Je sautai sur la table et commençai l'ascension de la face nord du rangement à provisions. Un pied sur la boîte de thé, l'autre sur le paquet de petits beurres, la main s'agrippant au crochet de la louche, je finirais bien par trouver le trésor de guerre, l'endroit où ma mère cachait le chocolat et les caramels. Un coffret de fer blanc. Mon cœur se mit à battre la chamade. Le pied gauche dans le sac à riz et le pied droit sur les algues séchées, je fis exploser la serrure à la dynamite de ma convoitise. J'ouvris et découvris, les yeux écarquillés, les doublons de cacao, les perles de sucre, les rivières de chewing-gum, les diadèmes de réglisse et les bracelets de marshmallow. Le butin. Je m'apprêtais à y planter mon drapeau et à contempler ma victoire du haut de cet Himalaya de sirop de glucose et d'antioxydants E428 quand j'entendis des pas. Panique. Laissant mes pierres précieuses au sommet de l'armoire, je descendis en rappel et je me cachai sous la table. Les pieds arrivèrent, je reconnus les pantoufles de Nishio-san et les jetas de Kashima-san. Cette dernière s'assit pendant que la plus jeune chauffait de l'eau pour le thé. Elle lui donnait des ordres comme à une esclave, et non contente de sa domination, elle lui disait des choses terribles. « Il te méprise, c'est clair. « C'est pas vrai? « Ça crève les yeux. La femme belge te parle comme à une subalterne. » Il y a une seule personne qui me parle comme à une subalterne ici, c'est toi. Normal, tu es une subalterne. Moi, je ne suis pas hypocrite. Madame n'est pas hypocrite? Cette façon que tu as de l'appeler madame, c'est ridicule. Elle m'appelle Nishio-san. L'équivalent dans sa langue, c'est madame. Quand tu as le dos tourné, tu peux être sûre qu'elle t'appelle la boniche. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne parles pas français. Les blancs ont toujours méprisé les japonais. Pas eux. Que tu es sotte. Monsieur Chanteleno, monsieur, tu ne vois pas que l'homme belge fait ça pour se moquer de nous. Il se lève chaque matin avant l'aurore pour aller à sa leçon de chant. C'est normal qu'un soldat se réveille tôt pour défendre son pays. C'est un diplomate, pas un soldat. On a bien vu à quoi ils servaient, les diplomates, en 1940. On est en 1970, Kashima-san. Et alors, rien n'a changé. Si ce sont tes ennemis, pourquoi travailles-tu pour eux? Je ne travaille pas. Tu n'as pas remarqué? Si, j'ai remarqué. mais tu acceptes leur argent. C'est peu à côté de ce qu'ils nous doivent. Ils ne nous doivent rien. Ils nous ont pris le plus beau pays du monde. Ils l'ont tué en 1945. Nous avons quand même fini par gagner. Notre pays est plus riche que le leur à présent. Notre pays n'est plus rien comparé à ce qu'il était avant-guerre. Tu n'as pas connu ce temps-là. Il y avait de quoi être fier d'être japonais à cette époque. Tu dis ça parce que tu parles de ta jeunesse. Tu idéalises. Il ne suffit pas de parler de sa jeunesse pour que ce soit beau. Toi, si tu parlais de la tienne, ce serait misérable. En effet, c'est parce que je suis pauvre. Avant-guerre, je l'aurais été aussi. Avant, il y avait de la beauté pour tout le monde, pour les riches et pour les pauvres. Qu'est-ce que tu en sais? Aujourd'hui, il n'y a plus de beauté pour personne, ni pour les riches, ni pour les pauvres. La beauté n'est pas difficile à trouver. Ce sont des restes. Ils sont condamnés à disparaître. C'est la décadence du Japon. J'ai déjà entendu ça quelque part. Je sais ce que tu penses. Même si tu n'es pas de mon avis, tu ferais bien de t'inquiéter. Tu n'es pas aussi aimé que tu le crois ici. Tu es bien naïf si tu ne vois pas le mépris qui se cache derrière leur sourire. C'est normal. Les gens de ton milieu ont tellement l'habitude d'être traités comme des chiens qu'ils ne le remarquent même plus. Moi, je suis une aristocrate. Je sens si l'on me manque de respect. Il te manque vraiment pas de respect ici? À moi, non. Je leur ai signifié qu'ils n'avaient pas intérêt à me confondre avec toi. Le résultat, c'est que je fais partie de la famille, pas toi. Tu es trop bête, toi, de croire des choses pareilles. Les enfants m'adorent, surtout la petite. Évidemment, à cet âge-là, ce sont des chiots. Si tu donnes à manger à un chiot, il t'aime. Je les aime, ces chiots. Si tu veux faire partie d'une famille de chiens, tant mieux pour toi. Mais ne t'étonne pas si un jour ils te traitent comme un chien, toi aussi. Que veux-tu dire? Je me comprends. Dit Kashima-san en posant son bol de thé sur la table, comme pour clore la discussion. Le lendemain, Nishio-san annonça à mon père qu'elle démissionnait. « J'ai trop de travail, je suis fatiguée. Il faut que je rentre à la maison m'occuper des jumelles. Mes filles n'ont que 10 ans, elles ont encore besoin de moi. » Mes parents, effondrés, ne purent qu'accepter. J'allais me suspendre au cou de Nishio-san. « Ne pars pas, je t'en supplie !» Elle pleura, mais ne changea pas de résolution. Je vis Kashima-san qui souriait en coin. Je courus raconter à mes parents ce que j'avais compris de la scène à laquelle j'avais assisté en cachette. Mon père, furieux contre Kashima-san, alla parler à Nishio-san en privé. Je restais dans les bras de ma mère en sanglotant et en répétant convulsivement « Nishio-san doit rester avec moi! Nishio-san doit rester avec moi !» Maman m'expliqua avec douceur que, de toute façon, un jour, je quitterai Nishio-san. « Ton père ne sera pas éternellement en poste au Japon. Dans 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, nous partirons. Et Nishio-san ne partira pas avec nous. À ce moment, il faudra bien que tu la quittes. » L'univers s'effondra sous mes pieds. Je venais d'apprendre tant d'abominations à la fois que je ne pouvais même pas en assimiler une seule. Ma mère n'avait pas l'air de se rendre compte qu'elle m'annonçait l'apocalypse. J'ai mis du temps à pouvoir articuler un son. Nous n'allons pas toujours rester ici? Non, ton père sera en poste ailleurs. Où? On ne le sait pas. Quand? On ne le sait pas non plus. Non, moi je pars pas, je veux pas partir. Tu ne veux plus vivre avec nous? Si, mais vous aussi vous devez rester. Nous n'avons pas le droit. Pourquoi? Ton père est diplomate, c'est son métier. Et alors? Il doit obéir à la Belgique. Elle est loin, la Belgique. Elle ne pourra pas le punir s'il désobéit. Ma mère rit, je pleurais de plus belle. C'est une blague ce que tu m'as dit, on va pas partir. Ce n'est pas une blague, nous partirons un jour. Je ne peux pas partir, je dois vivre ici, c'est mon pays, c'est ma maison. Ce n'est pas ton pays, c'est mon pays. Je meurs si je pars. Je secouais la tête comme une folle. J'étais dans la mer, j'avais perdu pied, l'eau m'avalait, je me débattais. Je cherchais un appui, il n'y avait plus de sol nulle part, le monde ne voulait plus de moi. Mais non, tu ne mourras pas. En effet, je mourrais déjà. Je venais d'apprendre cette nouvelle horrible que tout humain apprend un jour ou l'autre. Ce que tu aimes, tu vas le perdre. Ce qui t'a été donné te sera repris. C'est ainsi que je me formulais le désastre qui allait être le leitmotiv de mon enfance, de mon adolescence et des péripéties subséquentes. Ce qui t'a été donné te sera repris. Ta vie entière sera rythmée par le deuil. Deuil du pays bien-aimé, de la montagne, des fleurs, de la maison, de Nishio-san et de la langue que tu lui parles. Et ce ne sera jamais que le premier deuil d'une série dont tu n'imagines pas la longueur. Deuil au sens fort, car tu ne récupéreras rien, car tu ne retrouveras rien. On essaiera de te berner comme Dieu berne Job en lui rendant une autre femme, une autre demeure et d'autres enfants. Hélas, tu ne seras pas assez bête pour être dupe.
« Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? »
sanglotai-je. « Rien, ce n'est pas à cause de toi, c'est comme ça. Si au moins j'avais fait quelque chose de mal, si au moins cette atrocité était une punition, mais non. C'est comme ça parce que c'est comme ça. Que tu sois odieuse ou non, n'y change rien. Ce qui t'a été donné te sera repris, c'est la règle. » À presque 3 ans, on sait qu'on va mourir un jour. Ça n'a aucune importance, ce sera dans si longtemps que c'est comme si ça n'existait pas. Seulement apprendre à cet âge que dans 1, 2, 3 ans, on sera chassé du jardin sans même avoir désobéi aux consignes suprêmes, c'est l'enseignement le plus dur et le plus injuste, l'origine de tourments et d'angoisses infinies. Ce qui t'a été donné te sera repris. Et si tu savais ce qu'on aura le culot de te reprendre un jour ? Je me mis à hurler de désespoir. À ce moment, mon père et Nishio-san réapparurent. Cette dernière courut me prendre dans ses bras. « Rassure-toi, je reste. Je ne pars plus. Je reste avec toi. C'est fini. » Si elle m'avait dit cela 1 quart d'heure plus tôt, j'aurais explosé de joie. Désormais, je savais que c'était un atermoiement. Le drame était remis à plus tard. Maigre consolation. Face à la découverte de cette spoliation future, il n'y a que 2 attitudes possibles. Soit on décide de ne pas s'attacher aux êtres et aux choses, afin de rendre l'amputation moins douloureuse, soit on décide, au contraire, d'aimer d'autant plus les êtres et les choses, d'y mettre le paquet, puisque nous n'aurons pas beaucoup de temps ensemble, je vais te donner en 1 an tout l'amour que j'aurais pu te donner en 1 vie. Tel fut aussitôt mon choix. Je renfermai mes bras autour de Nishio-san et serrai son corps autant que mes forces inexistantes le permettaient. Cela ne m'empêcha pas de pleurer encore longuement. Kashima-san passait par là et vit la scène. Moi, dans l'étreinte d'une Nishio-san apaisée et attendrie. Elle comprit, sinon mon espionnage, au moins le rôle affectif que j'avais joué dans cette affaire. Elle resserra les lèvres. Je la vis me jeter un regard de haine. Mon père me rassura en rien. Notre départ du Japon n'était prévu que dans 2 ou 3 ans. 2 ou 3 années équivalaient pour moi à la durée d'une vie. J'en avais encore pour une existence entière au pays de ma naissance. Ce fut un soulagement amer, comme ces médicaments qui apaisent la douleur sans guérir la maladie. Je suggérai à l'auteur de mes jours de changer de métier. Il me répondit que la carrière d'égoutier ne l'attirait pas trop. Je vécus dès lors dans un sentiment de solennité. L'après-midi même de cette révélation tragique, Nishio-san m'emmena à la plaine de jeu. J'y passai 1 heure à sauter frénétiquement sur le muret du bac à sable en me répétant ces mots. « Tu dois te souvenir, tu dois te souvenir. Puisque tu ne vivras pas toujours au Japon, puisque tu seras chassé du jardin, puisque tu perdras Nishio-san et la montagne, puisque ce qui t'a été donné te sera repris, tu as le devoir de te rappeler ces trésors. Le souvenir a le même pouvoir que l'écriture. » Quand tu vois le mot « chat » écrit dans un livre, son aspect est bien différent du matou des voisins qui t'a regardé avec ses 6 beaux yeux. Et pourtant, voir ce mot écrit te procure un plaisir similaire à la présence du chat, à son regard doré posé sur toi. La mémoire est pareille. Ta grand-mère est morte, mais le souvenir de ta grand-mère la rend vivante. Si tu parviens à écrire les merveilles de ton paradis dans la matière de ton cerveau, tu transporteras dans ta tête sinon leur réalité miraculeuse, au moins leur puissance. Désormais, tu ne vivras plus que des sacres. Les moments qui le mériteront seront revêtus d'un manteau d'hermine et couronnés en la cathédrale de ton crâne. Tes émotions seront tes dynasties.